Chapitre 16. Charcot avait attendu que tout le monde soit couché pour s'installer à la table du salon, avec la pile de photocopies sortie du 36 par Lucie au cours de la journée. Il avait besoin de calme pour continuer à explorer le dédale de données informatiques qui l'attendait. Sa tête bourdonnait encore des dernières nouvelles au sujet d'Audra, de l'enfant que Nicolas voulait voir naître, du refus des parents de maintenir leur fille branchée, l'un des pires scénarios qui soit. Celui qui était chargé de trancher portait une sacrée responsabilité sur les épaules. Franck poussa un soupir et se concentra tant bien que mal sur l'enquête. Lucie avait pu discuter avec le médecin traitant de Doty la veille. À sa connaissance, sa patiente n'avait jamais subi d'acte chirurgical qui aurait pu expliquer la présence de son col du fémur dans un autre corps. La question se posait donc de savoir si la greffe avait été réalisée de son vivant. Dans le cas contraire, cela signifiait que l'os provenait, en toute logique, d'un don à la science. La procédure était alors de dépouiller les cadavres volontaires de leurs os, organes, peaux, pour les introduire dans le circuit des greffes. Mais là aussi, problème. Il n'existait pas d'acte de décès au nom d'Emma Doty. Si elle était morte, l'administration l'ignorait. Charcot détestait cette sensation de se heurter à un mur. Ne pas comprendre ne faisait qu'attiser sa volonté de creuser davantage. Depuis l'après-midi, grâce à cette paperasse, il disposait de billes pour avancer. À commencer par les fadettes transmises par l'opérateur téléphonique de Doty. La demande avait été faite sur une fenêtre qui s'étalait de janvier à aujourd'hui. Des milliers de lignes qui, pour chacune d'entre elles, indiquaient s'il s'agissait d'un SMS, d'un appel entrant ou sortant, le numéro de l'interlocuteur, ainsi que la date et la durée de la conversation. Ce qui l'intéressait dans un premier temps, c'était la dernière communication émise par Emma. Charcot avait stabiloté la ligne concernée. Celle-ci remontait au 10 août 2021. Sur une feuille, il avait noté le numéro de portable joint ce jour-là. Il avait remarqué que ce même numéro réapparaissait les semaines d'après, en tant qu'appelant, pour une activité d'une dizaine de secondes. L'interlocuteur avait dû laisser des messages sur le répondeur. Le 10 août 2021, soit 3 mois plus tôt environ. Ça concordait avec les témoignages d'Oppenheimer et de la voisine. 3 mois. Entre-temps, elle était sans doute morte. Son col du fémur avait été prélevé et transféré dans le corps d'une autre femme. La greffe avait a priori eu lieu aux alentours de septembre, pas plus tard, d'après le légiste, à en juger par la consolidation osseuse. Trop vaste encore pour espérer identifier l'endroit où avait eu lieu l'opération chirurgicale. Il devait en effet y en avoir des centaines tous les jours aux quatre coins de la France. Franck poursuivit ses investigations entamées dans la journée. Doty ne semblait pas être une adepte de la technologie. Peu de coups de téléphone depuis le début de l'année, courts pour la plupart. Était-ce dans ses habitudes, ou le sujet sur lequel elle travaillait l'accaparait-il à un point tel qu'elle avait négligé tout le reste? Franck angoissait face à la masse d'informations, de recoupements possibles, d'hypothèses qui naissaient sous ses yeux. Les fadettes étaient un outil formidable, mais il était impossible, seul, sans moyens ni ressources, de s'y retrouver dans ce maelstrom de chiffres. Or, tant qu'une enquête sur la disparition de Doty ne serait pas ouverte, Mortier refuserait, même si Lucie insistait, de solliciter des techniciens spécialisés. Le flic n'avait qu'une hâte, être réintégré pour prendre l'affaire en main. En attendant, il fallait se débrouiller à l'ancienne, avec de la jugeote. Il s'intéressa aux autres documents. Doty avait souscrit un abonnement Internet, mais le fournisseur d'accès n'avait pas encore transmis les adresses des sites auxquels elle s'était connectée via l'adresse IP reliée à sa box. La réponse pouvait mettre quelques jours comme des semaines à arriver, selon la bonne volonté de l'interlocuteur. Heureusement, la banque avait été plus réactive. Franck disposait, là aussi, des relevés du compte courant d'Emma depuis janvier, ainsi que des éléments précis concernant toutes ses dépenses par carte. Il constata des mouvements bancaires jusqu'à aujourd'hui, mais il s'agissait de prélèvements automatiques, assurances, impôts. Charcot ne mit pas longtemps à repérer le dernier enregistrement qui témoignait d'une action humaine. Un retrait de 300 euros dans un distributeur automatique du 11e, le 7 août. Ensuite, plus rien. Il alla se servir un verre d'eau avant de remonter le temps, ligne par ligne. Assez vite, il remarqua que chaque mois, à compter de mai, aux alentours du 5, elle avait retiré 800 euros, toujours au même DAB du 11e. Une somme anormale comparée au reste de ses dépenses. Il le nota sur sa feuille, puis poursuivit les investigations. La voisine avait signalé que Doty voyageait beaucoup, mais il ne trouva aucune trace d'achat de billets de train ni de billets d'avion. La faute au Covid, sans doute. En revanche, il observa pas mal de paiements à des stations-service. Puisqu'il n'y avait pas trace de location, ça signifiait qu'Emma possédait une voiture. Charcot écrivit « Où est sa voiture ?» Après quoi, un détail l'interpella. Entre début avril et mi-juillet, Emma Doty avait réalisé 5 paiements dans la station-service de l'Intermarché Super d'Auxon, toujours autour de 13h. Auxon, une ville dont le flic n'avait jamais entendu parler. Il tapa le nom sur sa tablette. Il s'agissait d'un bled situé en Côte d'Or, entre Dijon et Besançon. La carte s'afficha. Juste la campagne, les premiers reliefs des montagnes du Jura, sans rien alentour. Charcot sentit le sel de l'excitation sur ses lèvres. Peut-être un fil à tirer. Il chercha d'autres sources de dépenses dans ce coin-là de la France, mais ne dénicha rien de particulier. De même, il vérifia s'il existait une corrélation avec des coups de fil. Que dalle, et merde, ça aurait été trop beau. A priori, il n'était question que de brefs allers-retours en Côte d'Or, puisque des opérations bancaires dans le 11e, alimentation, carte de métro, précédaient ou succédaient de quelques jours. Il considéra alors d'autres pistes pendant 2 nouvelles heures, mais finit par abandonner. Ses yeux lui piquaient, il n'y voyait plus rien. Un regard vers l'horloge lui indiqua qu'il était déjà 1h. Une fois glissé sous sa couette néanmoins, il ne parvint pas à s'endormir. Son cerveau bouillonnait. Ses déplacements de Doty à presque 400 km de Paris l'obnubilaient. Qu'est-ce qui avait pu attirer la séroplasticienne là-bas? Alors qu'il attendait un sommeil qui ne venait pas, il pensa tour à tour au visage d'effroi de Nathalie Charlier, à l'histoire des accidents, à ces photos que Doty avait montrées à Oppenheimer, notamment cette plaie en forme de main dans le dos de l'homme squelettique. Un transi, représenté dans un diorama qu'elle n'avait pas eu le temps d'achever, semblait-il. Franck entendit soudain un petit signal retentir au fond de son crâne. Il se redressa et demeura immobile, assis dans le lit pendant un certain temps. Puis il retourna à pas de souris dans le salon et ralluma sa tablette. Lumière agressive en plein dans les rétines, 2h56. Il était définitivement en train de flinguer sa nuit. Dans le moteur de recherche, il tapa « Auxon, église, monastère, abbaye ». Son cœur s'emballa lorsque s'affichèrent les résultats. Il existait une abbaye, l'abbaye d'Assé, à une 20aine de kilomètres d'Auxon, encore active et occupée par une communauté de moines cisterciens. Aussitôt, il étudia les images. L'imposante église abbatiale, les jardins où les religieux cultivaient leurs légumes, le cloître austère aux murs recouverts de lourdes pierres beiges, le tout dans un environnement isolé entre prés et forêts. Sur la façade des bâtiments, il reconnut les ouvertures en forme de trèfle et en fut persuadé. C'était là qu'Emma Doty s'était rendue. Là qu'elle avait pris ses photos de l'homme squelettique. Mais qui était-il? Et pourquoi intéressait-il tant la séroplasticienne? La tête farcie d'interrogation, le flic éteignit son écran et alla se réfugier sous les couvertures. Il avait cette fois une sérieuse piste à suivre.